bonsoir. Clôture jeudi 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud du 15e sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. À l'issue des travaux, les BRICS ont plaidé notamment pour la réforme de l'ONU et ont appelé à une représentation accrue des pays en développement au Conseil de sécurité de l'ONU. Se positionnant sur les conflits que connaît le monde, ce groupe politico-économique affirme son engagement pour la résolution pacifique des conflits au Niger, en Libye et au Soudan sur la base de la médiation de l'ONU et de l'Union africaine. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la coopération dans divers domaines tels que l'économie, le commerce, l'innovation et le développement durable. La RDC, représentée par le Premier ministre Michel Sama Lukonde, a pris part à ce sommet comme invité. Ce dernier a présenté la RDC comme pays solution face aux enjeux actuels de toute l'humanité. Quelle lecture faites-vous de ce 15e sommet des BRICS? Nous en parlons ce soir avec le professeur Moïla Tchiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Professeur Moïla Tchiembe, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly.
Professeur Pierre Virgence, politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembo en RDC. Professeur Pierre Virgence, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec moi dans ce studio, Jean-Louis Miasuekema, voilà, j'ai bien prononcé, les journalistes et spécialistes des questions économiques et développement et de développement, Jean-Louis Miasuekema, bonsoir.
Bonsoir.
À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, vous nous suivez sous la 94.8. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Les BRICS, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, renforceront la coopération en matière de sécurité alimentaire entre les pays BRICS et au-delà. Ils ont également affirmé leur soutien indirect à la Russie en condamnant les sanctions internationales contre ce pays. Ces résolutions ont été adoptées jeudi 24 août à la clôture du 15e sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud. Le groupe note avec appréciation l'initiative africaine visant à résoudre les conflits ukrainiens. Et pour son extension, le groupe a accepté 6 nouveaux membres. Il s'agit de l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie. Pour sa part, la RDC, représentée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a pris part à ce sommet comme invité. Plus de détails avec vous, Alain Hong.
Les BRICS ont plaidé pour la réforme de l'ONU et ont appelé à une représentation accrue des pays en développement au Conseil de sécurité de l'ONU. Se positionnant sur les conflits que connaît le monde, le groupe politico-économique affirme son engagement pour la résolution pacifique des conflits au Niger, en Libye et au Soudan sur la base de la médiation de l'ONU et de l'Union africaine. Ils soutiennent également les aspirations du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud à jouer un rôle plus important au Conseil de sécurité de l'ONU et s'opposent aux barrières commerciales, y compris celles imposées par les pays développés sous prétexte de lutter contre le changement climatique. Et enfin, les dirigeants des BRICS soutiennent l'utilisation des monnaies nationales dans le commerce international et les transactions financières entre les pays des BRICS. Il faut dire que lors de ce sommet, les pays des BRICS n'ont pas pris la décision de créer une monnaie unique, une décision attendue pour faire barrage à l'hégémonie du dollar américain.
Merci Alain Hong pour tous ces détails. Professeur Moïla Tchiembe, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Le BRICS a clôturé son 15e sommet jeudi 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. BRICS, c'est l'acronyme des 5 pays, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Comment vous analysez d'abord cette initiative de ce groupe des pays?
Ben, disons que toute initiative qui permet à un certain nombre de pays de se réunir, de dire ce qu'ils pensent, ça peut toujours être une bonne chose. Mais Mon point de vue est que, contrairement au discours ambiant sur la naissance du nouveau multilatéralisme qui serait mené au meilleur des intérêts du monde, je pense qu'il y a là un discours ambigu. Parce qu'en fait, ce qui se joue en ce moment, c'est une dynamique de bloc. Pourquoi ? Parce que la Chine et la Russie qui ont pris en main l'initiative de mener la barque ont pour objectif, essentiellement énoncé mais souvent dissimulé, le postulat selon lequel l'Occident est en déclin. Le déclin de l'Amérique qui entraîne le déclin de l'Europe laisse la place à l'avènement d'un monde nouveau. Et ce monde nouveau serait piloté par la Russie et la Chine au meilleur des intérêts de ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, et que l'élargissement en cours témoigne probablement de cette volonté de bloc. Or, si demain l'élargissement du BRICS aboutissait à un certain nombre de pays africains ou non-africains qui viendraient en danse dans ce nouveau bloc, l'objectif est de lutter contre l'Occident, parce que c'est ça le discours de fond. On pense que l'Occident a fait son temps et qu'il fallait remplacer l'Occident par un monde nouveau. Alors, à ce moment-là, contrairement à ce multilatéralisme qui est prôné, on va véritablement vers une sorte de, après la disparition de l'affrontement Est-Ouest, on est en train probablement d'aller vers un nouveau schisme entre les anti-occidentaux, c'est-à-dire l'ensemble des pays que vous venez de citer et qui, probablement dans la mobilisation en cours, pourront dans les années qui viennent annoncer clairement que tel était l'objectif. Alors, en ce moment-là, quel est le nouveau monde qu'on nous promet ? L'affrontement entre l'Occident et les anti-occidentaux, c'est ça le monde nouveau que nous promet l'élargissement de BRICS ? Il y a de quoi s'en douter. Je pense que si telle est l'option, on ne serait pas dans un monde nouveau. On va se trouver entre deux blocs, l'Occident, présumé en déclin, qui se défendra avec honte, et le nouveau venu, le tiers-monde élargi au BRICS, qui, toute chose égale par ailleurs, cherchera à se mobiliser contre l'Occident. Et je pense que cet affrontement entre l'Occident et le monde non-occidental est un danger réel, parce que au-delà du discours et de quelques pays comme la Chine et même la Russie, la plupart des pays du tiers-monde qui sont derrière, même le Brésil ou l'Afrique du Sud, ne comptent pas beaucoup en dehors de l'emphase et des déclarations. S'il y avait un affrontement futur, vous verrez bien que les choses ne sont pas telles qu'on les annonce aujourd'hui. Je suis assez pessimiste et je pense que il faudrait peut-être imaginer, parce que le système international s'est fondé sur deux blocs, que ce soit les blocs militaires, économiques, culturels, industriels, technologiques, etc. Ça, c'est l'avancement normal du monde. Alors, mais s'il y a une sorte de crispation autour de l'Occident qui aurait vécu son temps avec le colonialisme, etc., etc., et le nouveau monde qui serait piloté par des pays supposés sains, hein, qui n'ont jamais été colonisés ou qui ne coloniseront personne, j'espère que demain, le lendemain des chantes et qu'on entre dans un monde de conflits réels, et ça nous rappellerait probablement le postulat de guerre des civilisations qu'avait annoncé le professeur Samuel Huntington, et sur lequel beaucoup de gens avaient rigolé, mais aujourd'hui, cette perspective-là se trouverait probablement devant nous. Alors, méfiance, méfiance, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a que des proclamations de foi. La monnaie chinoise comme la monnaie russe sont inconvertibles et leur prétention de pouvoir le remplacer par à remplacer le dollar tant que ces monnaies ne sont pas convertibles, il reste à voir probablement le troc et éventuellement la soumission de quelques pays africains ou non de BRICS à ces deux monnaies pendant un certain temps. Mais alors, est-ce ça le nouveau monde qu'on nous promet ? J'ai de doutes.
Alors, vous avez des doutes, professeur Moïla Tchimbé, mais on constate quand même un certain engouement des pays, hein, de plusieurs pays qui veulent adhérer à ce groupe. Comment on peut expliquer cela? Est-ce que c'est parce que ces pays-là sont aussi anti-occidentaux?
Mais évidemment, si vous voyez les pays, les fameux nouveaux pays qu'on nous annonce, l'Iran est sous les sanctions depuis belle lurette déjà, et les nouveaux pays comme l'Arabie Saoudite, vous savez que l'Arabie Saoudite a rompu avec les États-Unis, déjà sous la pression de la Chine, et sous la pression de la Russie qui a constitué le cartel élargi à l'OPEP. Sous le soleil, il n'y a pas de nouveaux acteurs. Et tous ces gens-là, ou tous ces pays-là, ont une dent contre l'Occident, pour parler sincèrement. Et quels que soient, évidemment, les pays africains, ça c'est autre chose, dans la mesure où ces pays africains qui ont mangé leur pain en ne condamnant pas, notamment l'agression contre l'Ukraine, sur le fondement même des principes qu'ils ont essayé de rappeler, qui sont les principes de la Charte des Nations Unies. Le respect de la souveraineté des États, le respect de leurs frontières, le fait qu'il est interdit en droit international l'usage de la force pour modifier par la force les frontières des États. Imaginez-vous, il n'y a pas si longtemps, pour ne parler que de la République démocratique du Congo, il a été confirmé par les experts des Nations Unies que le Rwanda, le voisin de la République démocratique du Congo, a été attrapé les mains dans le sac, dans le soutien au M23. Imaginez-vous, si demain le Rwanda accélérait la cadence, militairement parlant, en affrontant la République démocratique du Congo, on verra encore des États nous expliquer « Oui, mais vous comprenez, c'est parce que le Rwanda est soutenu par, je ne sais pas, quel pays occidental, ou bien par Israël, et que sais-je encore, c'est un pays des Juifs, etc. » Vous voyez de telles élucubrations auxquelles on assisterait, alors que la question du droit, que tout le monde doit défendre, quelle que soit la réalité. Alors on nous annonce que voilà, l'Ukraine voulait adhérer à l'OTAN, voulait adhérer à l'Union à l'Union européenne. Par conséquent, tout ceci menacerait la sécurité de la Russie, grande puissance par-dessus le marché, qui n'a pas les mêmes capacités ni économiques ni financières que l'Ukraine. On est là dans une sorte de dérive. Aucun pays africain, enfin quelques-uns se sont abstenus, deux ou trois ont condamné. Cette abstention a été un soutien réel à la Russie. Imaginez-vous si cela se faisait en faveur de l'un des pays africains qui souhaiterait modifier par la force les frontières de notre pays.
Alors, professeur Moïla Tchimbé, je l'ai dit dans le sommaire, la RDC a pris part à ce sommet. C'est le premier ministre qui a représenté le pays invité. Alors, certaines personnes se posent la question de savoir est-ce que le fait pour la RDC d'avoir répondu à l'invitation du président sud-africain est une façon de montrer son intérêt au BRICS?
Non, il est tout à fait légitime que la République démocratique du Congo, comme d'autres pays, soit présente dans tous les forums où se débattent des questions importantes qui peuvent, à tort ou à raison, avoir un impact sur son propre destin. Il est tout à fait logique que la République démocratique du Congo soit là. Mais il faut rappeler également que l'Afrique du Sud, anciennement soutenue par l'Union soviétique dans la lutte contre l'apartheid, n'a pas oublié ses soutiens. Et ce glissement sémantique, non seulement de la République sud-africaine elle-même, regardez les pays qui viennent d'intégrer dans la maison. L'Éthiopie, pendant un certain temps, avait une coopération militaire suivie avec l'Union soviétique. L'Égypte, n'en parlons pas. Alors, si vous prolongez la liste, vous verrez bien qu'il y a là une sorte de rengaine qui revient particulièrement liée à la réalité de l'affrontement Est-Ouest que nous avons vécu, et qui probablement va se profiler là sous d'autres horizons. Mais je pense que la République démocratique du Congo n'a pas intérêt à adhérer à un bloc opposé à un autre bloc, parce que c'est ça la logique réelle. La République démocratique du Congo a hérité d'une diplomatie de la porte ouverte de l'État indépendant du Congo. Ce pays doit demeurer ouvert à tout vent, à tous les courants, sans faire le choix d'appartenir à un bloc particulier, anti-occidental ou non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'aller à l'affrontement. Si demain, il y a un mouvement qui se crée à l'échelle mondiale anti-occidentale, produira une autre dynamique opposée à ce mouvement, et ce qu'on vient de... On n'avait pas pensé qu'un jour, il y aurait la guerre sur le territoire de l'Europe. Aujourd'hui, on est en train de le vivre avec fracas. Il n'est pas exclu que ce discours-là aboutisse demain à un autre affrontement qui risque d'être redoutable.
Merci, professeur Moïla Chiembe. Jean-Louis Miasui Kema, journaliste et spécialiste des questions économiques et des développements. Ces questions ont été évoquées lors de ce sommet à Johannesburg, en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de l'organisation de ce 15e sommet?
Bon, d'abord qui s'organise en Afrique, et surtout en Afrique du Sud, qui est en fait le dernier... avant les six qui vont voir leur adhésion effective à partir du 1er janvier 2024, les six nouveaux pays, c'est le dernier adhérent. C'est d'abord les BRIC, et puis c'est devenu les BRICS. C'est en 2011 qu'elle a adhéré. Le professeur a relaté aussi l'historique, le soutien à l'ANC contre la lutte anti-apartheid, et aussi le besoin de l'Afrique du Sud devenue fin post-apartheid, de ouvrir son éventail. Donc cela et aussi c'est une dynamique parce que les cartes sont en train de se rabattre d'une certaine manière. Tout le monde, le BRICS veut se faire le chantre de la multipolarisation, mais en réalité quand on voit cette conférence avec l'admission des pays, surtout sous la pression de la Chine et de la Russie, et la Russie savent que d'un côté la Chine qu'il faut élargir le nombre pour peser. Et la Russie, il faut nécessairement faire mentir son isolement. Et donc, il y a un véritable jeu politique. Et en Afrique, parce que c'est le continent de demain. Donc ça, c'est électuel, parce que c'est le continent de demain. Parce que, et puis, c'est l'évolution aussi économique. Vous prenez, par exemple, le premier partenaire de l'Afrique aujourd'hui, c'est la Chine. Le plus grand importateur de 50% des minerais importés ou achetés dans le monde sont faits par la Chine. Donc, naissance a créé des liens, des partenariats. Mais maintenant, il faut que les Africains, que chaque État africain sache là où sont ses intérêts. Et je voudrais même revoir, j'ai eu à l'écrire, bon, je ne sais pas si l'article est paru, mais le président Mout avait l'habitude de dire ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. C'est-à-dire, c'est une autre manière de reprendre ministre des Affaires étrangères dans le 19e siècle qui disait « La Grande-Bretagne n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. » Donc, c'est à la RDC de voir où sont ses intérêts. On était invité parce qu'on n'est pas membre du BRIC, et le président aussi n'a pas daigné se déplacer. Il a quand même laissé la deuxième tête de l'exécutif, Michel Samalukonde. Mais on est déjà dans beaucoup d'organisations. Notre participation, elle peut être, si elle profite ou pas, c'est discutable. Mais la chose, c'est que on doit garder un œil observateur. Pour moi, c'est pas nécessairement le moment d'entrer dans le BRICS. Et aussi, je pense que la tendance du BRICS, c'est d'attirer vraiment d'abord des grosses économies pour poser. Et après... pouvoir faire pression ou bien entraîner les autres économies.
Alors, dans son discours, le Premier ministre a présenté la RDC comme pays solution face aux enjeux actuels de toute l'humanité. Est-ce une invitation aux BRICS de venir en RDC, de venir investir en RDC?
Oui, bien sûr. Parce que si on regarde déjà la Chine comme notre premier partenaire d'Afrique, premier partenaire de la RDC, l'Afrique du Sud l'est déjà depuis longtemps. L'Afrique du Sud l'est depuis l'époque coloniale. Les gens ne se rendent pas compte que même pendant l'apartheid, les relations, parce que 40 nations coopéraient avec l'Afrique du Sud en plein régime d'apartheid, la coopération, les échanges existaient déjà, notamment après la zérinisation avec tout l'échec économique, la pénurie. On a été supplié en produits alimentaires par l'Afrique du Sud. Et après, même la fin de l'apartheid n'a fait que relancer, d'ailleurs, la coopération. Vous prenez l'Inde. L'Inde aussi, c'est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde. Il a dépassé la Chine. Hein. L'Inde est en train de petit à petit faire ses marques en Afrique et en RDC. Il y a une commission, il y a eu des travaux préparatoires pour élargir la coopération de l'Inde. La Russie, avec le Brésil, avec la Russie, la RDC constitue les pays qui sont considérés comme les trois greniers minéraux en matière de minerais, parce qu'elles en ont beaucoup, parce qu'elles ont une diversification, elles remplissent presque le tableau de Mendeley. Et donc, et aussi avec la Russie, c'est aussi pour contrebalancer certaines choses. La coopération militaire, par exemple, la Russie vend plus facilement des armes, qui sont des fois moins chères, comme la Chine aussi, pour les pays africains. Le Brésil, n'en parlons pas, vous parlez de pays solution. Le président, c'est peut-être la donne qui a changé avec l'avènement de président Tshisekedi, c'est de reprendre ce leadership dans les questions climatiques à base de ce que nous que le destin ou Dieu nous a doté de nos forêts. Et c'est pour ça qu'il fait cet axe Brésil, RDC, Indonésie, sur les forêts équatoriales et tropicales. Donc déjà, sans voir que le BRICS comme tel, nous sommes pratiquement en coopération, en échange, en discussion avec tous ces leaders du BRICS. Mais après, maintenant, c'est la structure même du BRICS. Bien sûr, pour peser, il faut faire bloc. Et c'est cette logique de bloc dont on revient au professeur. Mais maintenant, vous avez l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui sont des démocraties, plutôt ce type libéral, et ainsi de suite. Vous avez la Chine, qui est une démocratie populaire, c'est-à-dire tout simplement une dictature. Et après, vous avez un régime poids lourd, autocrate, qui est la Russie. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le plan international? Bon, c'est la question d'intérêt. Donc, la démocratie, chacun, on l'a fait dans notre pays, on mène notre truc, après, on discute ensemble, mais il est vrai que, sur le plan international, il faut vraiment que chaque État sache là où sont ses intérêts. Et pour le cas de la RDC, c'est de savoir profiter de tous les blocs.
Merci Jean-Louis. Professeur Pierre Virgens, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Voilà justement une question de Butembo, Fabien, qui nous écrit de Butembo, qui demande c'est quoi exactement l'objectif des BRICS.
C'est très intéressant parce que les BRICS ont des objectifs très différents dans leur réunion même. Donc, il est clair que la Russie et la Chine, comme l'a très bien dit M. Tshiembé, ont des visions géopolitiques très stratégiques, très militaires, mais par contre, il semble que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud n'ont pas du tout une vision militaire, ils ont une vision très économique, et c'était en fait des tensions justement dans ce groupe pour savoir comment ce qu'ils avaient décidé, puisque ce qui avait été mis sur la table, c'était la possibilité d'un élargissement, ça on a vu qu'il y en avait un qui avait été décidé, mais aussi d'un approfondissement de leurs relations, c'est-à-dire d'un début de structuration des BRICS. Or, il n'y a pas de structuration pour le moment, pour répondre directement à la question de votre auditeur, eh bien, les BRICS, c'est uniquement une rencontre de temps en temps de puissances émergentes, mais qui n'ont aucun système politique commun, hein, comme vient de le dire mon prédécesseur. La Chine et la Russie sont des États, enfin l'un directement autoritaire, l'autre avec une apparence d'élection. Les trois autres États sont des systèmes électoraux, donc le système politique n'est pas le même, leur objectif idéologique n'est pas le même. Mais l'idéologie, effectivement, n'est pas très présente dans les BRICS, ce sont des rencontres très réalistes. Un des objectifs, c'était de faire une monnaie commune qui aurait pu éviter la dollarisation de l'économie qui est en route depuis la Première Guerre mondiale. Eh bien, on peut dire que cette dollarisation-là, elle n'a absolument pas été touchée. Donc, la dollarisation continue. Il n'y a absolument pas de possibilité pour eux de construire une monnaie commune. Ils avaient déjà construit en 2015 une nouvelle banque de développement, CISHA.
Shanghai, et en fait, cette banque manque d'argent, il y a toute une série de projets qui suivent, mais pas assez. Et donc, on voit bien qu'il y a un vrai problème d'investissement de la part de ces pays pour pouvoir fabriquer quelque chose de commun. En fait, c'est plutôt une alliance, je dirais, momentanée. Par moment, ils font des choses ensemble, mais le plus souvent, ils n'ont pas une coopération même économique systématique entre eux. C'est vrai quand même que depuis les 20 ans, ça a été créé en 2003 que les BRICS existent, il y a quand même une augmentation des relations économiques entre eux d'à peu près 10%, ce qui n'est pas rien. Mais c'est loin d'être un échange comme il y en a par exemple dans l'Union européenne ou dans d'autres unions économiques. Donc on voit que les objectifs de chacun des pays des BRICS sont assez différents. Hein. L'Inde n'a pas du tout envie de voir un renforcement militaire trop fort de la Chine, parce que ce sont des pays rivaux. Il ne faut pas oublier qu'ils ont une frontière commune et qu'elle est très tendue, hein, cette frontière. Et il y a toute une série d'enjeux entre eux qui ne sont pas réglés. Et donc cette réunion, c'est une réunion où on fait une réunion à un moment donné et puis on s'en va et on fait comme si on avait été d'accord, mais en réalité ils sont pas d'accord sur grand chose. Et effectivement, quand on voit l'incantation, je dirais, de il faudrait changer le système du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a fallu que les autres pays insistent très fort pour que la Russie et la Chine acceptent de mettre ce morceau de phrase dans leur communiqué commun, parce qu'effectivement la Russie et la Chine sont très contents de la situation et moins les autres ont à dire et plus ils ont l'impression d'avoir du pouvoir. Donc, je veux dire, c'est un ensemble très hétéroclite, très hétérogène, mais qui est, et c'est ça qui est intéressant à observer, le symbole quand même du fait que maintenant, les États-Unis et ses alliés, je dirais quasiment inconditionnels, l'Union européenne, ne sont plus les seuls à dicter l'agenda politique mondial. Et ça, c'est important, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est un peu une répétition, certains l'ont dit, c'est un peu exagéré, de ce qui s'est passé à Bandung en 1955, mais effectivement, c'est déjà un signe de quelque chose.
Alors, professeur, vous pensez que, vous venez de dire que les États-Unis et l'Europe ne sont plus les seuls à dicter l'agenda mondial, vous pensez que le BRICS est en train de le faire?
Non, il n'est pas en train de le faire réellement, mais il est en train de faire entendre une voix. Donc il n'a pas une possibilité d'agir, il a déjà une possibilité de parler, et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, quand les BRICS se réunissent, on prend ça au sérieux et on écoute ce qu'ils disent. Alors évidemment, là, l'ensemble des décisions qui sont prises sont décevantes par rapport à ce qu'il y avait à l'agenda, hein, mais en réalité, effectivement, tout le monde écoute quand même ce qu'ils disent. Et donc, ce n'est pas un changement de rapport de force fondamentaux, mais c'est un début, c'est quelque chose qui commence à bouger, quoi, voilà.
Qui fait bouger, qui fait peur l'Occident?
Non, pas du tout. Je pense que l'Occident ne se sent absolument pas menacé, comme, je dirais, le surarmement américain est impossible à mettre en danger maintenant. Je pense que, enfin, je connais pas les chiffres militaires, mais les Américains sont surarmés par rapport à n'importe quelle autre puissance dans le monde. Et donc là, je pense pas qu'il y ait de mise en danger. Par contre, le fait de parler sur le plan économique de... par exemple, l'idée de construire cette banque, cette nouvelle banque de développement, hein, en fait, c'était une idée qui suivait l'échec de la vraie mondialisation exigée par les pays du Sud après le grand crash boursier de 2009. Et là, effectivement, on avait dit que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale allaient enfin avoir une répartition plus égalitaire, mais effectivement, pour le moment, les pays des BRICS n'ont droit qu'à 15% du pouvoir de vote à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, alors qu'ils représentent 25% du PIB mondial. Donc là, effectivement, leur parole commence à compter. Alors, je ne pense pas que sur le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça va changer rapidement, mais sur des points comme le Fonds monétaire international, peut-être que s'ils réussissent, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi, hein, depuis 2015, hein, à mettre en place quelque chose qui pourrait être une sorte de début d'alternative au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, effectivement, là, ils pourraient faire plier les puissances dominantes, hein, donc les États-Unis, l'Union européenne, effectivement, et mieux tenir compte de leur nouvelle importance maintenant sur la carte mondiale.
Alors, professeur, il y a un auditeur hein, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Okapi. Il s'appelle Alexis Kiapunia, depuis Goma au Nord Kivu. Il pense que avec les BRICS, plutôt le BRICS, les BRICS vont apporter l'indépendance à l'Afrique. Comment vous lui répondez?
Oh, je dis, ben, c'est un bel espoir, évidemment. Je dirais, on a eu beaucoup de moments d'espoir hein, sur l'indépendance de l'Afrique. Donc là, je pense que ce serait une bonne idée. Malheureusement, je ne pense pas qu'il faut compter sur les BRICS pour obtenir ça. Alors, on peut dire que c'est vrai qu'avec maintenant trois pays africains, donc l'Éthiopie, l'Égypte et l'Afrique du Sud, dans les BRICS, à partir de janvier 2024, ça pourrait un peu changer la donne. Mais ces pays ne vont pas, à mon avis, défendre l'ensemble de l'Afrique. Ils vont défendre d'abord leur intérêt en tant qu'État, comme l'a dit mon prédécesseur. Les pays, quand ils négocient, ils défendent leur intérêt d'État et non pas l'intérêt de leurs voisins, même si par ailleurs ils aiment bien leurs voisins. Et on sait qu'en Afrique, tous les pays n'ont pas une relation facile avec leurs voisins. Et donc, effectivement, on n'est pas sûr du tout que ces pays-là vont tenir compte de l'ensemble de l'Afrique. Ils vont dire qu'ils parlent au nom de l'ensemble de l'Afrique, mais c'est pas pour ça que ça va être vraiment le cas. Donc, je pense que il faut profiter effectivement du fait qu'il y a quand même dans une organisation qui est maintenant une alternative en quelque sorte, mais pas du tout de la même ampleur que le G7, hein, mais c'est quand même une alternative. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Moi, ce qui me paraît plus significatif que la réunion du BRICS, hein, c'est le fait que Narendra Modi, le Premier ministre indien, vient de dire il y a quelques jours que ce serait important que l'Union africaine puisse être invitée dans les réunions du G20. Ça, je pense que ce serait intéressant parce que l'Union africaine, c'est une structure africaine. Ce n'est pas un pays africain qui va se défendre lui tout seul et pas tenir compte des intérêts des voisins.
Un autre auditeur qui nous suit, Bakatouseka, voilà, Cléophas, il vient de vous suivre, professeur Virgence, vous dites que ces pays ne sont pas toujours d'accord sur plusieurs choses, alors qu'il dit ceci, c'est comme les pays de l'OTAN aussi, ils ne sont pas toujours d'accord sur toutes choses, il faut laisser le temps aux BRICS.
Bien sûr, de toute façon, ça c'est une question de temps, hein. Une question de temps, d'énergie d'énergie donc de chacun des pays pour construire quelque chose de commun et de voir si, je dirais, l'intérêt commun entre les pays des BRICS domine par rapport à tout ce qui fait divergence, effectivement. Enfin, il a raison sur l'OTAN, hein, on voit bien que la Turquie ne joue absolument pas le même jeu que la plupart des autres pays de l'OTAN par rapport à l'Ukraine, tout simplement, hein. Enfin, tout le monde a suivi ça, et c'est tout à fait vrai. Ça n'empêche qu'effectivement, la Turquie joue bien son rôle de membre de l'OTAN, quand elle a besoin de se sentir défendue éventuellement contre la Russie. Et donc là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de commun qui a été construit. C'est vrai, donc ça, le fait d'être dans une alliance, ça n'empêche pas les divergences. On le voit bien dans l'Union européenne, c'est tout le temps le cas, etc. Donc, je veux dire, c'est vrai, l'auditeur a raison. Mais ici, on est dans une alliance débutante, et donc parce qu'elle n'a que 20 ans, hein, je dirais, à l'échelle des relations internationales, c'est pas encore très long. Hein, et donc effectivement, je pense que l'auditeur a raison. Avec le temps, peut-être qu'effectivement, il y aura quelque chose qui va se mettre en commun. Mais là, je pense que l'initiative du Premier ministre indien me semble plus intéressante parce que là, c'est bien l'Union africaine qui est invitée et non pas quelques pays africains.
On va ouvrir maintenant notre standard pour prendre aussi ces autres auditeurs qui sont très nombreux à appeler. On va se rendre à Kisangani dans la province de la Tchopo. Pour écouter cet auditeur, ce sera pour vous, professeur Moïla Tchimbe.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. La recommandation faite sur la réforme de l'ONU me paraît salutaire car la structure actuelle de cette organisation mondiale, surtout au niveau de la composition du Conseil de sécurité, n'est plus adaptée aux réalités de l'ère. La question des droits de veto est réservée uniquement aux 5 membres permanents, notamment la Chine, les États-Unis, la France, la Russie et la Grande-Bretagne traduit, à mon humble avis, une discrimination à l'égard d'autres États et fragilise les décisions de l'ONU. Il faut soit supprimer carrément ses droits de veto ou soit l'élargir pour que l'Afrique soit récompensée avec un ou deux sièges en qualité de membre permanent. S'agissant de l'intervention du Premier ministre, il est vrai que la RDC formellement se présente comme pays solution face aux enjeux de l'humanité, mais ce slogan n'a pas de sens. Le mieux serait que le gouvernement puisse faire de son mieux pour que la RDC puisse profiter de ses potentialités dont il dispose afin d'être un acteur majeur dans le concert des nations que de pleurnicher chaque fois, car en relation internationale, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts à maximiser.
Professeur Maïla.
Oui, je pense que si la question de pays solution, la République démocratique du Congo en matière d'environnement avait déjà suggéré les possibilités qui s'offrent et au pays lui-même et à l'humanité par ses forêts, par la diversité de tout ce qui est toutes les composantes de son environnement écologique. Ça peut aider la République démocratique du Congo à participer à des solutions en matière de recherche sur l'environnement. C'est une possibilité. Et cette possibilité reste ouverte, naturellement, à condition que la République démocratique du Congo elle-même se dote d'une politique environnementale assez claire et précise, ambitionneuse, non seulement ambitieuse, mais qui a des moyens. Parce que lorsqu'on a des déclarations somme toute respectables. Encore faut-il les mettre dans une problématique de stratégie, fixer les fins et se donner les moyens. C'est bien beau d'être un pays solution, encore faudra-t-il que clairement le pays solution ait une stratégie claire, se donne les moyens pour qu'on puisse compter les résultats engrangés année après année. Et ça c'est possible à condition naturellement que les jours et les années qui viennent, le gouvernement et le pays prennent conscience de ses potentialités. Quant au droit de veto et à la réforme du Conseil de sécurité, je pense que c'est un rêve éveillé. Il faut regarder la Charte des Nations Unies et les conditions qui sont posées pour modifier la Charte des Nations Unies. Je suis certain que personne ne le fera dans les temps qui sont devant nous pour la simple raison que les puissances moyennes comme la France, comme la Chine, comme le Royaume-Uni ne participent à la gouvernance du monde qu'en étant membres du Conseil de sécurité. Or, si d'autres pays entraient comme l'Inde au Conseil de sécurité, vous verrez que la Chine serait le premier pays à s'y opposer. Et d'ailleurs, il y avait cette problématique en Europe depuis un certain nombre d'années. Est-ce que la France accepterait que l'Allemagne entre au Conseil de sécurité avec droit de veto? Mais ça, c'est un autre débat, naturellement. Je pense que compte tenu de l'histoire, il faut rappeler que le droit de veto à l'origine n'avait pas la forme de la mascarade à laquelle nous vivons aujourd'hui. Les pays qui ont été chargés du maintien de la paix et de la sécurité internationale, envisageant d'abord la sauvegarde de leurs propres intérêts. Mais à l'origine, le droit de veto, c'était un sauf-conduit. Lorsqu'on a demandé au président des États-Unis est-ce que si une guerre éclatait dans le rapport de force que nous sommes en train de constituer, le nouvel ordre, dans l'entre-deux-guerres, le président des États-Unis avait dit écoutez, si demain une guerre éclatait, moi, président des États-Unis, je n'ai pas le pouvoir de déclarer la guerre. Il faut que je me réfère au Congrès. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de trouver une alternative pendant ce temps? À d'autres partenaires lui ont dit, mais alors, vous parlez du Congrès, nous aussi, on peut avoir aussi nos assemblées qui peuvent décider en temps de guerre. Alors, il a été convenu que les grandes puissances qui ont versé le sang pour délivrer le monde ne pourront pas être engagées dans une guerre future sans leur préalable consentement. Ça, c'était le préalable qui est derrière le sous-entendu de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de veto. Évidemment, dans l'après-guerre, grandes puissances qui l'ont obtenu et confirmé, l'utilisent sciemment pour défendre leurs intérêts que les intérêts proprement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je ne pense pas que dans un avenir prévisible, indépendamment
que ça sera possible.
Non, ce n'est pas possible pour des raisons de droit.
Merci.
Non seulement de droit et de rapport de force. Changer la charte dans ces conditions, et les pays qui ont ce droit de veto ne lâcheront rien jusqu'à ce que le monde qu'on nous promet nouveau puisse éventuellement implanter le monde ancien.
Merci, professeur. Il y a beaucoup de vos étudiants qui vous suivent en ce moment, hein, à partir de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Ils sont nombreux à envoyer des messages sur la page Facebook de Radio Okapi, notamment Madame Bénédicte Kadima. Alors, Jean-Louis Mia Souekama, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kolwezi, dans la province du Lualaba.
C'est Patrick Mbounika, ça m'a depuis Kolwezi, province du Lualaba. Nous saluons la participation de la RDC à ces sommets comme invité. Mais au regard de la situation socio-économique et sécuritaire mondiale, la RDC ne semble pas être prête pour jouer véritablement son rôle d'un pays solution qui est dans toutes les lèvres des dignitaires du régime actuel. Le pays solution ne se décrète pas. Il faut poser des actes. Il faut une politique nationale globale qui implique tous les secteurs de la vie nationale. L'homme politique congolais n'a pas encore compris cela. On ne sent pas du sérieux, la rigueur et la discipline dans la gestion de la chose publique. Nous sommes encore à l'étape de culte des personnalités et des antivaleurs qui minent nos institutions. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour le plan interne avant d'aller faire figuration dans ce genre de sommet de pays sérieux.
Réaction.
Oui, cher auditeur, merci aussi bien de la question, mais aussi plutôt, c'est plus une intervention dans laquelle, en fait, vous avez donné les réponses. C'est-à-dire que la force extérieure d'un État, c'est vient de sa force intérieure, de sa cohésion intérieure, de ses politiques qu'il met en place, de sa gouvernance. Et donc, vous le dites vrai. Même quand on a eu la coopération, ils sont attirés de la coopération, depuis que même on était aux études, quand nos amis faisaient des, soit de droit ou d'économie, sur des travaux pratiques ou des mémoires. C'était justement que déjà, on ne donne pas les bases dans un pays, il n'y a pas des bases juridiques, économiques, pour bâtir de véritables coopérations. Mais en fait, parce qu'il n'y a pas de véritable politique. Parce que, je vais pousser plus loin dans ce que vous dites. Je vais donner un simple exemple d'un commentaire qui a été fait quand il y a eu le sommet. Il faut, parce que ça aussi, ça pèse, ça reste dans les mémoires, le sommet Russie-Afrique. Alors, on a dit que les Africains sont partis se trouver un nouveau maître. D'abord, sur le plan psychologique mental, il faut que l'Afrique se libère. Il faut que les Congolais se libèrent. C'est-à-dire qu'on n'a plus de nouveaux maîtres. Les maîtres, c'est nous-mêmes qui devons être bâtis notre pays. Notre pays a été bâti sur des bases de la mondialisation. C'est-à-dire que l'objectif de notre pays, c'est d'être un pays d'une puissance de rang mondial. Pas africaine, mais mondial. C'est-à-dire plus que régional, sous-régional. Donc il y a maintenant des préalables, et ces préalables doivent être très rigoureux. Est-ce que notre classe politique est à même de le comprendre? La réalité nous a souvent prouvé que ce n'est pas le cas. Est-ce que nous en avons les moyens? D'abord, il faut avoir les moyens psychologiques, mentaux, savoir ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on va chercher, peut-être je vais titiller un peu cette classe politique, être le Brésil de l'Afrique, l'Allemagne de l'Afrique, c'est très bien. On doit être plus que ça. On doit être un État où on lutte contre les inégalités, où chaque enfant puisse accéder à un enseignement de qualité, parce que ça va jouer. Hein. Nous ne sommes pas le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est le Nigeria. Mais si nous voulons peser, nous devons avoir une éducation de qualité pour chacun de nos enfants, que là veut dire que ça va de l'enfant qui veut être menuisier, charpentier, c'est un métier très noble, ou technicien de surface, à celui qui veut être cuisinier, jusqu'à celui qui veut être professeur, ou ainsi de suite. Mais cela dans une véritable cohésion nationale, parce qu'il faut développer des capitaux humains individuels de chacun, mais aussi faire travailler tout le monde, capital humain collectif. Alors, maintenant, effectivement, si on a une classe politique qui passe son temps à se disputer, à nourrir ses convoitises de postes et servir des élections que comme un mode de production ou de reproduction économique et sociale, on ne va pas y arriver parce que ce chemin demande du sacrifice, demande une vision, demande une ouverture, parce que ça aussi c'est autre chose. On doit être ouvert au monde pour profiter de l'avantage du dernier venu. On veut entrer dans un secteur, on va faire mieux que les autres pour se maintenir. Vous parlez par exemple de la politique environnementale. Mais si on ne donne rien à la politique environnementale nous-mêmes, si on ne fait pas des politiques rationnelles pour savoir comment gérer nos forêts, d'un moment exporter du bois en le transformant aussi plutôt que des grumes, mais en replantant aussi. Parce que quand on lit la lutte contre le changement climatique nous affecte, c'est-à-dire que nos enfants aussi ont droit à avoir un bouclier climatique pour leur avenir, pour notre agriculture, qui peut nourrir plus de 2 milliards, ou le tiers, ou la moitié de la planète. Donc, c'est en ayant cette prise de conscience qui fait passer avant les vrais objectifs, le vrai idéal, et surtout cette éthique ou cette mentalité de développement. Parce que ce qui manque, les gens, quand ils posent des choses, c'est pas, le développement ne se résume pas à bien manger, à bien ceci, bien cela. Le développement, c'est tout un concept qui irradie toutes nos manières de faire. Où la culture a de la place, ou le social de la place, ainsi de suite.
Alors, très rapidement, hein, vous répondez à Samy et Wania qui pensent que aujourd'hui, il n'est pas question de voir les intérêts, mais il est question de se positionner du bon côté. Et pour moi, présentement, le bon côté n'est pas l'Occident. Prête réaction.
On reviendra encore, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc, développer notre pays. Si l'Occident peut l'apporter quelque chose, on le prend. Si la Chine peut apporter, on le prend. Si on prend, on prend. Mais c'est à nous de nous organiser pour faire un foyer de développement, de lumière, de poule technologique, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. C'est nous-mêmes. Le vrai problème, c'est nous-mêmes d'abord, les Congolais.
Merci Jean-Louis. Professeur Pierre Virgence, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu.
Robert Baume, j'appelle à partir de la province du Sud Kivu, plus précisément dans la ville de Bukavu. Le 15e sommet des BRICS mérite bien une attention toute particulière. Bien organisé, les BRICS peuvent constituer la future puissance mondiale qui remplacerait les États-Unis d'Amérique et l'Occident en général, cela sur le plan politique, économique, militaire et autres. Je pense que la RDC, en tant qu'un pays qui puisse s'imposer par les potentialités dont elle regorge, peut aussi rejoindre les BRICS et en devenir membre pour les renforcer afin de contribuer aux solutions des différents problèmes de l'humanité. Il est plus qu'opportun et nécessaire que les BRICS soient soutenus. En tout cas, ça vaut la peine.
Professeur Pierre Vigence.
Oui, mais ça me paraît évident que ça vaut la peine, effectivement, pour l'équilibre, je dirais, du dialogue mondial, qu'il y ait des organisations puissantes qui parlent à partir de, je dirais, de centres géopolitiques différents et qui se mettent en dialogue. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le G7 ou dans ce cas-ci les BRICS peuvent effectivement défendre un regard sur le monde. On sait que le G7 défend à la fois une idéologie et une façon de s'enrichir. Les BRICS défendent non pas une idéologie, mais quelque chose comme une autre image, mais en réalité, cette image est très floue, et comme le disait le professeur qui est dans votre studio, moi je dirais, soyons très prudents, en tant que citoyen du monde, moi je dirais, les Africains doivent construire l'avenir de l'Afrique, sans croire que la Chine, ou la Russie, ou l'Inde vont leur apporter le bonheur que les Occidentaux ne leur ont pas apporté. Je dirais, le pouvoir politique des Africains, il dépend d'abord de la prise de pouvoir par les peuples africains et par l'obligation qu'ils vont faire à leurs dirigeants d'appliquer des programmes politiques efficients et efficaces. Mais effectivement, je ne pense pas que ce soit les BRICS qui vont apporter le bonheur au monde. Ce n'est évidemment pas non plus l'alliance américaine avec l'Union européenne qui apporte le bonheur au monde. Et donc, effectivement, il faut toute une série de mouvements pour pouvoir parler ensemble, pour pouvoir faire une collectivité mondiale, pour faire que l'ONU, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, soient le reflet des préoccupations et des besoins et des solutions de l'ensemble du monde, et pas simplement d'une élite, parce que, voilà, on a très bien rappelé aussi l'origine du Conseil de sécurité des Nations Unies, et je dirais l'inégalité géographique effroyable, et démographique encore pire, que représente ce droit de veto. C'est clair que là, il y a toute une série d'éléments qui datent maintenant d'il y a 80 ans, et qui doivent effectivement être modifiés, mais ça ne sera modifié
vérifier que lentement, au fur et à mesure, et avec une action continue et volontaire de toute une série de pays. Mais il ne faut pas croire que les BRICS vont apporter le bonheur au monde.
Merci, professeur Pierre Birgeons. On va considérer cela comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de notre émission. Professeur Moïla Tchiembe, en 30 secondes, quel est l'avenir pour l'Afrique au sein des BRICS?
Bien, personnellement, je pense que la place de l'Afrique n'est pas dans les BRICS. La place de l'Afrique dans le monde est dans l'Afrique elle-même. Si l'Afrique ne s'interroge pas, si l'Afrique ne prend pas ses responsabilités, il n'y a pas de bonheur qui viendrait ni de la Chine, ni de la Russie, ni de l'Inde ou d'un autre pays quelconque.
Merci, professeur. Jean-Louis, la place de l'Afrique n'est pas dans les BRICS?
Bon, le développement de l'Afrique comme de la RDC ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est si elle se donne une dynamique à elle, se basant sur son passé ancestral, comme avec toute l'expérience qu'il y a dans le monde, et en sachant se réunir autour de ceux qui les réunissent, mais sincèrement, c'est en cherchant se donner des bases d'un développement endogène avec des éléments exogènes.
Merci Jean-Louis Miensuikama. Voilà, votre nom n'est pas facile à prononcer.
C'est juste 10 lettres, Miensuikama. Et j'aimerais saluer les professeurs qui sont intervenus. Merci pour leur brillante intervention. Je ne suis pas professeur, mon père était professeur.
Voilà, merci Jean-Louis. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné dans la production de ce magazine. Guy Maté, Donna Madimba, Merveille Assani, Jean-Claude Siala, Jonathan Fonani, Clément Chimanga, merci beaucoup. Dialogue en congolais, c'est fini. J'étais à la présentation, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.